Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Section 11 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 11. La seconde arrestation d'Arsène Lupin. Dès 8 heures, 12 voitures de déménagement encombrèrent la rue Crevaux, entre l'avenue du Bois de Boulogne et l'avenue Bugeaud. M. Félix Davy quittait l'appartement qu'il occupait au 4e étage du numéro 8, et M. Dubreuil, expert, qui avait réuni en un seul appartement le 5e étage de la même maison et le 5e étage des deux maisons contiguës, expédiait le même jour, pure coïncidence, puisque ces messieurs ne se connaissaient pas. Les collections de meubles pour lesquelles tant de correspondants étrangers lui rendaient quotidiennement visite. Détail qui fut remarqué dans le quartier, mais dont on ne parla que plus tard, aucune des 12 voitures ne portait le nom et l'adresse du déménageur, et aucun des hommes qui les accompagnaient ne s'attardait dans les débits avoisinants. Ils travaillèrent si bien qu'à 11 heures, tout était fini. Il ne restait plus rien que ces monceaux de papier et de chiffons qu'on laisse derrière soi, au coin des chambres vides. M. Félix Davy, jeune homme élégant, vêtu selon la mode la plus raffinée, mais qui portait à la main une canne d'entraînement dont le poids indiquait chez son possesseur un biceps peu ordinaire. M. Félix Davy s'en alla tranquillement et s'assit sur le banc de l'allée transversale qui coupe l'avenue du Bois, en face de la rue Pergolèse. Près de lui, une femme, en tenue de petite bourgeoise, lisait son journal, tandis qu'un enfant jouait à creuser avec sa pelle un tas de sable. Au bout d'un instant, Félix Davy dit à la femme, sans tourner la tête, « Ganimard ?»« Parti depuis ce matin, 9 heures. »« Où ?»« À la préfecture de police. »« Seul ?»« Seul. »« Pas de dépêche cette nuit ?»« Aucune. » On a toujours confiance en vous dans la maison? Toujours. Je rends de petits services à Madame Ganimard et elle me raconte tout ce que fait son mari. Nous avons passé la matinée ensemble. C'est bien. Jusqu'à nouvel ordre, continuez à venir ici chaque jour à 11 heures. Il se leva et se rendit près de la porte Dauphine, au pavillon chinois où il prit un repas frugal, 2 œufs, des légumes et des fruits. Puis il retourna rue Crevaux et dit à la concierge « Je jette un coup d'œil là-haut et je vous rends les clés. » Il termina son inspection par la pièce qui lui servait de cabinet de travail. Là, il saisit l'extrémité d'un tuyau de gaz dont le coude était articulé et qui pendait le long de la cheminée, enlevait le bouchon de cuivre qui le fermait, adapta un petit appareil en forme de cornet et souffla. Un léger coup de sifflet lui répondit. Portant le tuyau à sa bouche, il murmura « Personne, Dubreuil ?»« Personne. »« Je peux monter ?»« Oui. » Il remit le tuyau à sa place, tout en se disant « Jusqu'où va le progrès ?» Notre siècle fourmille de petites inventions qui rendent vraiment la vie charmante et pittoresque, et si amusante, surtout quand on sait jouer à la vie comme moi. Il fit pivoter une des moulures de marbre de la cheminée. La plaque de marbre elle-même bougea, et la glace qui la surmontait glissa sur d'invisibles rainures, démasquant une ouverture béante où reposaient les premières marches d'un escalier construit dans le corps même de la cheminée, tout cela bien propre, en fonte soigneusement astiquée et en carreaux de porcelaine blanche. Il monta. Au 5e étage, même orifice au-dessus de la cheminée. M. Dubreuil attendait. « C'est fini chez vous ?»« C'est fini. » Tout est débarrassé?
Entièrement.
Le personnel?
Il n'y a plus que les trois hommes de garde.
Allons-y.
L'un après l'autre, ils montèrent par le même chemin jusqu'à l'étage des domestiques et débouchèrent dans une mansarde où se trouvaient trois individus dont l'un regardait par la fenêtre.
Rien de nouveau?
Rien, patron.
La rue est calme?
Absolument. Encore 10 minutes et je pars définitivement. Vous partirez aussi. D'ici là, au moindre mouvement suspect dans la rue, avertissez-moi.
J'ai toujours le doigt sur la sonnerie d'alarme, patron.
Dubreuil, vous aviez recommandé à nos déménageurs de ne pas toucher au fil de cette sonnerie.
Certes, elle fonctionne à merveille.
Alors je suis tranquille.
Ces deux messieurs redescendirent jusqu'à l'appartement de Félix Davy. Et celui-ci, après avoir rajusté la moulure de marbre, s'exclama joyeusement.
« Dubreuil, je voudrais voir la tête de ceux qui découvriront tous ces admirables trucs, timbres d'avertissement, réseaux de fils électriques et de tuyaux acoustiques, passages invisibles, lames de parquet qui glissent, escaliers dérobés, une vraie machination pour Ferry.
Quelle réclame pour Arsène Lupin?
Une réclame dont on serait bien passé.
Dommage de quitter une pareille installation.
Tout est à recommencer.
Dubreuil est sur un nouveau modèle, évidemment, car il ne faut jamais se répéter.
Peste soit du Sholmès.
Toujours parvenu, le Sholmès?
Et comment?
De Southampton, un seul paquebot, celui de minuit.
Du Havre, un seul train, celui de 8 heures du matin qui arrive à 11h11.
Du moment qu'il n'a pas pris le paquebot de minuit,
et il ne l'a pas pris,
les instructions données au capitaine étant formelles, il ne pourra être en France que ce soir, via New Haven et Dieppe.
S'il revient.
Sholmès n'abandonne jamais la partie.
Il reviendra.
Mais trop tard.
Nous serons loin.
Et Mlle d'Étange?
Je dois la retrouver dans 1 heure.
Chez elle?
Oh, non. Elle ne rentrera chez elle que dans quelques jours.
Après la tourmente, et lorsque je n'aurai plus à m'occuper que d'elle.
Mais vous, Dubreuil, il faut vous hâter.
L'embarquement de tous nos colis sera long,
et votre présence est nécessaire sur le quai.
Vous êtes sûr que nous ne sommes pas surveillés?
Par qui?
Je ne craignais que Sholmès.
Dubreuil se retira. Félix Davy fit un dernier tour, ramassa 2 ou 3 lettres déchirées, puis, apercevant un morceau de craie, il le prit, dessina sur le papier sombre de la salle à manger un grand cadre et inscrivit, ainsi que l'on fait sur une plaque commémorative, « Ici habita, durant 5 années, au début du 20e siècle, Arsène Lupin, gentilhomme cambrioleur. »
Cette petite plaisanterie parut lui causer une vive satisfaction. Il la contempla en sifflotant un air d'allégresse et s'écria « Maintenant que je suis en règle avec les historiens des générations futures, filons.
Dépêchez-vous, maître Herlock Sholmès, avant 3 minutes j'aurai quitté mon gîte et votre défaite sera totale.
Encore 2 minutes.
Vous me faites attendre, maître.
Encore 1 minute.
Vous ne venez pas?
Eh bien, je proclame votre déchéance et mon apothéose,
sur quoi je m'esquive.
Adieu, royaume d'Arsène Lupin.
Je ne vous verrai plus.
Adieu les 55 pièces des 6 appartements sur lesquels je régnais.
Adieu, ma chambrette, mon austère chambrette. »
Une sonnerie coupa net son accès de lyrisme, une sonnerie aiguë, rapide et stridente, qui s'interrompit 2 fois, reprit 2 fois et cessa.
C'était la sonnerie d'alarme.
Qu'avait-il donc? Quel danger imprévu?
Ganimard?
Mais non!
Il fut sur le point de regagner son bureau et de s'enfuir, mais d'abord il se dirigea du côté de la fenêtre.
Personne dans la rue.
L'ennemi serait-il donc déjà dans la maison?
Il écouta et crut discerner des rumeurs confuses.
Sans plus hésiter,
Il courut jusqu'à son cabinet de travail, et comme il en franchissait le seuil, il distingua le bruit d'une clé que l'on cherchait à introduire dans la porte du vestibule. « Diable !» murmura-t-il, « il n'est que temps. La maison est peut-être cernée, l'escalier de service impossible. Heureusement que la cheminée, il poussa vivement la moulure, elle ne bougea pas. Il fit un effort plus violent, elle ne bougea pas. Au même moment, il eut l'impression que la porte s'ouvrait là-bas et que des pas résonnaient. « Sacré nom, jura-t-il, je suis perdu si ce fichu mécanisme... » Ses doigts se convulsèrent autour de la moulure. De tout son poids, il pesa. Rien ne bougea. Rien. Par une malchance incroyable, par une méchanceté vraiment effarante du destin, le mécanisme, qui fonctionnait encore un instant auparavant, ne fonctionnait plus. Il s'acharna, se crispa. Le bloc de marbre demeurait inerte, immuable. Malédiction! Était-il admissible que cet obstacle stupide lui barrât le chemin? Il frappa le marbre. Il le frappa à coups de poing rageur. Il le martela. Il l'injuria. « Eh bien quoi, monsieur Lupin? Il y a donc quelque chose qui ne marche pas comme il vous plaît ?» Lupin se retourna, secoué d'épouvante. Herlock Sholmès était devant lui. Herlock Sholmès! Il le regarda en clignant des yeux, comme gêné par une vision cruelle. Herlock Sholmès à Paris. Herlock Sholmès, qu'il avait expédié la veille en Angleterre, ainsi qu'un colis dangereux, et qui se dressait en face de lui victorieux et libre. Ah, pour que cet impossible miracle se fût réalisé malgré la volonté d'Arsène Lupin, il ferait un bouleversement des lois naturelles. Le triomphe de tout ce qui est illogique et anormal. Herlock Sholmès en face de lui. Et l'Anglais prononça, ironique à son tour, et plein de cette politesse dédaigneuse avec laquelle son adversaire l'avait si souvent cinglé, « Monsieur Lupin, je vous avertis qu'à partir de cette minute, je ne penserai plus jamais à la nuit que vous m'avez fait passer dans l'hôtel du baron d'Autrec, plus jamais aux mésaventures de mon ami Wilson, plus jamais à mon enlèvement en automobile, et non plus à ce voyage que je viens d'accomplir, ficelé par vos ordres sur une couchette peu confortable. » Cette minute efface tout. Je ne me souviens plus de rien. Je suis payé. Je suis royalement payé. » Lupin garda le silence. L'Anglais reprit. « N'est-ce pas votre avis ?» Il avait l'air d'insister comme s'il eût réclamé un acquiescement, une sorte de quittance à l'égard du passé. Après un instant de réflexion, durant lequel l'Anglais se sentit pénétré, scruté jusqu'au plus profond de son âme, Lupin déclara « Je suppose, monsieur, que votre conduite actuelle s'appuie sur des motifs sérieux ?»« Extrêmement sérieux. Le fait d'avoir échappé à mon capitaine et à mes matelots n'est qu'un incident secondaire de notre lutte. Mais le fait d'être ici, devant moi, seul, vous entendez, seul, en face d'Arsène Lupin, me donne à croire que votre revanche est aussi complète que possible. Aussi complète que possible. Cette maison? Cernée. Les deux maisons voisines? Cernées. L'appartement au-dessus de celui-ci? Les trois appartements du cinquième que M. Dubreuil occupait? Cernés. De sorte que vous êtes pris, M. Lupin, irrémédiablement pris. Les mêmes sentiments qui avaient agité Sholmès au cours de sa promenade en automobile, Lupin les éprouva. La même fureur concentrée, la même révolte, mais aussi, en fin de compte, la même loyauté le courba sous la force des choses, tous deux également puissants. Ils devaient pareillement accepter la défaite comme un mal provisoire auquel on doit se résigner. « Nous sommes quittes, monsieur, » dit-il nettement. L'Anglais sembla ravi de cet aveu. Ils se turent, puis Lupin reprit, déjà maître de lui et souriant. « Et je n'en suis pas fâché. Cela devenait fastidieux de gagner à tout coup. Je n'avais qu'à allonger le bras pour vous atteindre en pleine poitrine. Cette fois, j'y suis. Touchez, maître. » Il riait de bon cœur. « Enfin, on va se divertir. Lupin est dans la souricière. Comment va-t-il sortir de là ?»« Dans la souricière. » Quelle aventure! À maître, je vous dois une rude émotion. C'est cela, la vie. Il se pressa les tempes de ses deux poings fermés, comme pour comprimer la joie désordonnée qui bouillonnait en lui, et il avait aussi des gestes d'enfant qui décidément s'amusent au-delà de ses forces. Enfin, il s'approcha de l'anglais. « Et maintenant, qu'attendez-vous ? » ?»«
Ce que j'attends ? » ?»«
Oui, Ganimard est là, avec ses hommes. Pourquoi n'entre-t-il pas ?»«
Je l'ai prié de ne pas entrer. » »«
Et il a consenti ?»
Je n'ai requis ses services qu'à la condition formelle qu'il se laisserait guider par moi. D'ailleurs, il croit que M. Félix Davy n'est qu'un complice de Lupin.
Alors, je répète ma question sous une autre forme. Pourquoi êtes-vous entré seul?
J'ai voulu d'abord vous parler.
Ah, vous avez à me parler!
Cette idée parut plaire singulièrement à Lupin. Il y a telle circonstance où l'on préfère de beaucoup les paroles aux actes.
Monsieur Sholmès, je regrette de n'avoir point de fauteuil à vous offrir. Cette vieille caisse à moitié brisée vous agrée-t-elle? Ou bien le rebord de cette fenêtre? Je suis sûr qu'un verre de bière serait le bienvenu, brune ou blonde. Mais asseyez-vous, je vous en prie.
Inutile. Causons.
J'écoute.
Je serai bref. Le but de mon séjour en France n'était pas votre arrestation. Si j'ai été amené à vous poursuivre, c'est qu'aucun autre moyen ne se présentait d'arriver à mon véritable but.
Qui était ?
De retrouver le diamant bleu.
Le diamant bleu.
Certes, puisque celui qu'on a découvert dans le flacon du consul Blétienne n'était pas le vrai.
En effet, le vrai fut expédié par la dame blonde. Je le fis copier exactement, et comme, alors, j'avais des projets sur les autres bijoux de la comtesse, et que le consul Blechène était déjà suspect, la sudite dame blonde, pour n'être point soupçonnée à son tour, glissa le faux diamant dans les bagages du sudit consul. Tandis que vous, vous gardiez le vrai.
Bien entendu.
Ce diamant-là, il me le faut.
Impossible. Mille regrets.
Je l'ai promis à la comtesse de Crozon. Je l'aurai.
Comment l'aurez-vous, puisqu'il est en ma possession?
Je l'aurai précisément parce qu'il est en votre possession.
Je vous le rendrai donc?
Oui.
Volontairement?
Je vous l'achète.
Lupin eut un accès de gaieté.
Vous êtes bien de votre pays. Vous traitez ça comme une affaire.
C'est une affaire.
Et que m'offrez-vous?
La liberté de Mlle d'Étange.
Sa liberté?
Mais je ne sache pas qu'elle soit en état d'arrestation.
Je fournirai à M. Ganimard les indications nécessaires. Privée de votre protection, elle sera prise, elle aussi.
Lupin s'exclafa de nouveau.
Cher monsieur, vous m'offrez ce que vous n'avez pas. Mlle d'Étange est en sûreté et ne craint rien. Je demande autre chose.
L'anglais hésita, visiblement embarrassé, un peu de rouge aux pommettes. Puis, brusquement, il mit la main sur l'épaule de son adversaire.
Et si je vous proposais ma liberté?
Non, mais enfin, je puis sortir de cette pièce, me concerter avec M. Ganimard.
Et me laisser réfléchir?
Oui.
Mon Dieu, à quoi cela me servira-t-il? Ce satané mécanisme ne fonctionne plus, dit Lupin en poussant avec irritation la moulure de la cheminée. Il étouffa un cri de stupéfaction cette fois, caprice des choses, retour inespéré de la chance, le bloc de marbre avait bougé sous ses doigts. C'était le salut, l'évasion possible. En ce cas, à quoi bon se soumettre aux conditions de Sholmès? Il marchait de droite et de gauche, comme s'il méditait sa réponse. Puis, à son tour, il posa sa main sur l'épaule de l'anglais. « Tout bien pesé, Monsieur Sholmès, j'aime mieux faire mes petites affaires seul. Cependant, non, je n'ai besoin de personne. Quand Ganimard vous tiendra, ce sera fini. On ne vous lâchera pas.
Qui sait?
Voyons, c'est de la folie. Toutes les issues sont occupées. Il en reste une.
Laquelle?
Celle que je choisirai.
Des mots. Votre arrestation peut être considérée comme effectuée.
Elle ne l'est pas.
Alors? Alors je garde le diamant bleu.
Sholmès tira sa montre.
Il est 3h-10. À 3h, j'appelle Ganimard. Nous avons donc 10 minutes devant nous pour bavarder.
Profitons-en, monsieur Sholmès, et pour satisfaire la curiosité qui me dévore, dites-moi comment vous vous êtes procuré mon adresse et mon nom de Félix Davy.
Tout en surveillant attentivement Lupin, dont la bonne humeur l'inquiétait, Sholmès se prêta volontiers à cette petite explication où son amour-propre trouvait son compte et repartit.
« Votre adresse ? Je la tiens de la dame blonde. »«
Clotilde ?
Elle-même. Rappelez-vous, hier matin, quand j'ai voulu l'enlever en automobile, elle a téléphoné à sa couturière. »«
En effet. » »«
Eh bien, j'ai compris plus tard que la couturière, c'était vous. » Et dans le bateau, cette nuit, par un effort de mémoire, qui est peut-être une des choses dont il me sera permis de tirer vanité, je suis parvenu à reconstituer les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone. 7-3.
De la sorte, possédant la liste de vos maisons retouchées, il m'a été facile, dès mon arrivée à Paris ce matin, à 11h, de chercher et de découvrir dans l'annuaire de téléphone le nom et l'adresse de M. Félix Davy. Ce nom et cette adresse connus, j'ai demandé l'aide de M. Ganimard.
Admirable. De premier ordre. Je n'ai qu'à m'incliner. Mais ce que je ne saisis pas, c'est que vous ayez pris le train du Havre. Comment avez-vous fait pour vous évader de l'hirondelle?
Je ne me suis pas évadé.
Cependant, vous aviez donné l'ordre au capitaine de n'arriver à Southampton qu'à 1h du matin.
On m'a débarqué à minuit.
J'ai donc pu prendre le paquebot du Havre.
Le capitaine m'aura trahi?
C'est inadmissible.
Il ne vous a pas trahi.
Alors,
c'est sa montre.
Sa montre?
Oui, sa montre que j'ai avancée d'une heure.
Comment?
Comme on avance une montre. En tournant le remontoir, nous causions, assis l'un près de l'autre, je lui racontais des histoires qui l'intéressaient. Ma foi, il ne s'est aperçu de rien.
Bravo, bravo, le tour est joli. Je le retiens. Mais la pendule qui est accrochée à la cloison de sa cabine?
Ah, la pendule, c'était plus difficile, car j'avais les jambes liées. Mais le matelot qui me gardait pendant les absences du capitaine a bien voulu donner un coup de pouce aux aiguilles.
Lui? Allons donc, il a consenti?
Oh, il ignora l'importance de son acte. Je lui ai dit qu'il me fallait à tout prix prendre le premier train pour Londres. Et il s'est laissé convaincre.
Moyennant
un petit cadeau, que l'excellent homme d'ailleurs a l'intention de vous transmettre loyalement.
Quel cadeau?
Presque rien.
Mais encore,
le diamant bleu.
Le diamant bleu?
Oui, le faux. Celui que vous avez substitué au diamant de la comtesse, et qu'elle m'a confié.
Ce fut une explosion de rire, soudaine et tumultueuse. Lupin se pâmait, les yeux mouillés de larmes.
Dieu que c'est drôle! Mon faux diamant repassé au matelot, et la montre du capitaine, et les aiguilles de la pendule.
Jamais encore Sholmès n'avait senti la lutte aussi violente entre Lupin et lui. Avec son instinct prodigieux, il devinait, sous cette gaieté excessive, une concentration de pensées formidable, comme un ramassement de toutes les facultés. Peu à peu, Lupin s'était rapproché. L'Anglais recula et distraitement glissa les doigts dans la poche de son gousset.
« Il est 3h, monsieur Lupin. »«
3h déjà?
Quel dommage! On s'amusait tellement. »«
J'attends votre réponse. »«
Ma réponse?
Mon Dieu, que vous êtes exigeant! »«
Alors, c'est la fin de la partie que nous jouons. »«
Et comme en jeu, ma liberté. »«
Ou le diamant bleu. »«
Soit, jouez le premier. Que faites-vous? »
« Je marque le roi, » dit Sholmès, en jetant un coup de revolver.
« Et moi le poing, » riposta Arsène, en lançant son poing vers l'Anglais.
Sholmès avait tiré en l'air, pour appeler Ganimard, dont l'intervention lui semblait urgente. Mais le poing d'Arsène jaillit droit à l'estomac de Sholmès, qui pâlit et chancelait. D'un bond, Lupin sauta jusqu'à la cheminée, et déjà la plaque de marbre s'ébranlait, trop tard. La porte s'ouvrit.
« Rendez-vous !»
Lupin, sinon... Ganimard, posté sans doute plus près que Lupin n'avait cru, Ganimard était là, le revolver braqué sur lui. Et derrière Ganimard, 10 hommes, 20 hommes se bousculaient de ces gaillards solides et sans scrupules qui l'eussent abattu comme un chien au moindre signe de résistance. Il fit un geste très calme. « Bas les pattes, je me rends. » Et il croisa ses bras sur sa poitrine. Il y eut comme une stupeur. Dans la pièce dégarnie de ses meubles et de ses tentures, les paroles d'Arsène Lupin se prolongeaient ainsi qu'un écho. « Je me rends !» Paroles incroyables. On s'attendait à ce qu'il s'évanouît soudain par une trappe ou qu'un pan de mur s'écroulât devant lui et le dérobât une fois de plus à ses agresseurs. Et il se rendait. Ganimard s'avança et, très ému, avec toute la gravité que comporta un tel acte, lentement, il étendit la main sur son adversaire et eut la jouissance infinie de prononcer « Je vous arrête, Lupin !» Brrr, frissonna Lupin. « Vous m'impressionnez, mon bon Ganimard. Quelle mine lugubre! On dirait que vous parlez sur la tombe d'un ami. Voyons, ne prenez pas ces airs d'enterrement. Je vous arrête. Et ça vous épate. Au nom de la loi, d'exécuteur, Ganimard, inspecteur principal, arrête le méchant Lupin. Minute historique, et dont vous saisissez toute l'importance, et c'est la seconde fois que pareil fait se produit. Bravo, Ganimard, vous irez loin dans la carrière. » Et il offrit ses poignets au cabriolet d'acier. Fin de la section 11.
Section 12 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 12. La seconde arrestation d'Arsène Lupin. Suite. Ce fut un événement qui s'accomplit d'une manière un peu solennelle. Les agents, malgré leur brusquerie ordinaire et l'âpreté de leur ressentiment contre Lupin, agissaient avec réserve, étonnés qu'il leur fût permis de toucher à cet être intangible. « Mon pauvre Lupin, soupira-t-il. « Que diraient tes amis du noble faubourg s'ils te voyaient humilié de la sorte ?» Il écartait les poignets avec un effort progressif et continu de tous ses muscles. Les veines de son front se gonflèrent. Les maillons de la chaîne pénétrèrent dans sa peau. « Allons-y, » fit-il. La chaîne sauta, brisée. « Une autre, camarade, celle-ci ne vaut rien. » On lui en passa deux. Il approuva. « À la bonne heure. » « Vous ne sauriez prendre trop de précautions. » Puis, comptant les agents, « Combien êtes-vous, mes amis ? 25 ? 30 ? C'est beaucoup. Rien à faire. »« Ah, si vous n'aviez été que 15 !» Il avait vraiment de l'allure, une allure de grand acteur qui joue son rôle d'instinct et de verve, avec impertinence et légèreté. Sholmès le regardait, comme on regarde un beau spectacle dont on sait apprécier toutes les beautés et toutes les nuances. Et vraiment, il eut cette impression bizarre que la lutte était égale entre ces 30 hommes d'un côté, soutenus par tout l'appareil formidable de la justice, et de l'autre côté, cet être seul, sans armes et enchaîné. Les deux parties se valaient. « Eh bien, maître, lui dit Lupin, voilà votre œuvre. Grâce à vous, Lupin va pourrir sur la paille humide des cachots. Avouez que votre conscience n'est pas absolument tranquille et que le remords vous ronge. » Malgré lui, l'Anglais haussa les épaules avec l'air de dire « Il ne tenait qu'à vous. » « Jamais, jamais, s'écria Lupin, vous rendre le diamant bleu. Ah non, il m'a coûté trop de peine déjà. J'y tiens. Lors de la première visite que j'aurai l'honneur de vous faire à Londres, le mois prochain sans doute, je vous dirai les raisons. Mais serez-vous à Londres, le mois prochain? Préférez-vous Vienne? Saint-Pétersbourg. Il sursauta. Au plafond, soudain, résonnait un timbre. Et ce n'était plus la sonnerie d'alarme, mais l'appel du téléphone dont les fils aboutissaient à son bureau entre les deux fenêtres et dont l'appareil n'avait pas été enlevé. Le téléphone! Ah, qui donc allait tomber dans le piège que tendait un abominable hasard? Arsène Lupin eut un mouvement de rage vers l'appareil, comme s'il avait voulu le briser, le réduire en miettes, et par là même étouffer la voix mystérieuse qui demandait à lui parler. Mais Ganimard décrocha le récepteur et se pencha. « Allô? Allô? Le numéro 648.73, oui, c'est ici. » Vivement, avec autorité, Sholmès l'écarta, saisit les deux récepteurs et appliqua son mouchoir sur la plaque pour rendre plus indistinct le son de sa voix. À ce moment, il leva les yeux sur Lupin, et le regard qu'ils échangèrent leur prouva que la même pensée les avait frappés tous deux, et que tous deux ils prévoyaient jusqu'aux dernières conséquences de cette hypothèse possible, probable, presque certaine, c'était la dame blonde qui téléphonait. Elle croyait téléphoner à Félix Davy, ou plutôt à Maxime Bermond, et c'est à Sholmès qu'elle allait se confier. Et l'anglais scanda. « Allô? Allô? » Un silence, et Sholmès. « Oui, c'est moi, Maxime. » Tout de suite, le drame se dessinait. Avec une précision tragique. Lupin, l'indomptable et railleur Lupin, ne songea même pas à cacher son anxiété, et la figure pâlie d'angoisse. Il s'efforça d'entendre, de deviner, et Sholmès continuait, en réponse à la voix mystérieuse. « Allô, allô? Mais oui, tout est terminé, et je m'apprêtais justement à vous rejoindre, comme il était convenu. Où? Mais à l'endroit où vous êtes, ne croyez-vous pas que c'est encore là? » Il hésitait, cherchant ses mots, puis il s'arrêta. Il était clair qu'il tâchait d'interroger la jeune fille sans trop s'avancer lui-même et qu'il ignorait absolument où elle se trouvait. En outre, la présence de Ganimard semblait le gêner. Ah, si quelque miracle avait pu couper le fil de cet entretien diabolique! Lupin l'appelait de toutes ses forces, de tous ses nerfs tendus. Et Sholmès prononça. « Allô? Allô? Vous n'entendez pas? « Moi non plus, très mal, c'est à peine si je distingue. Vous écoutez? Eh bien voilà, en réfléchissant, il est préférable que vous rentriez chez vous. »« Quel danger? Aucun. »« Mais il est en Angleterre, j'ai reçu une dépêche de Southampton, me confirmant son arrivée. » L'ironie de ces mots. Sholmès les articula avec un bien-être inexprimable, et il ajouta, « Ainsi donc, ne perdez pas de temps, cher ami, je vous rejoins. » Il accrocha les récepteurs. « Monsieur Ganimard, je vous demanderai trois de vos hommes. »« C'est pour la dame blonde, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Vous savez qui c'est ? Où elle est ?»« Oui. »« Bigre ! Jolie capture ! Avec Lupin, la journée est complète. »« Folenfant, amenez deux hommes et accompagnez monsieur. » L'anglais s'éloigna, suivi des trois agents. C'était fini. La dame blonde, elle aussi, allait tomber au pouvoir de Sholmès, grâce à son admirable obstination, grâce à la complicité d'événements heureux, la bataille s'achevait pour lui en victoire, pour Lupin en désastre irréparable. Monsieur Sholmès. L'anglais s'arrêta. Monsieur Lupin. Lupin semblait profondément ébranlé par ce dernier coup. Des rides creusaient son front. Il était là et sombre. Il se redressa pourtant en un sursaut d'énergie, et malgré tout, allègre, dégagé, il s'écria « Vous conviendrez que le sort s'acharne après moi. Tout à l'heure, il m'empêche de m'évader par cette cheminée et me livre à vous. Cette fois, il se sert du téléphone pour vous faire cadeau de la dame blonde. Je m'incline devant ses ordres. » Ce qui signifie que je suis prêt à rouvrir les négociations. » Sholmès prit à part l'inspecteur et sollicita, d'un ton d'ailleurs qui n'admettait point de réplique, l'autorisation d'échanger quelques paroles avec Lupin. Puis il revint vers celui-ci. Colloque suprême. Il s'engagea sur un ton sec et nerveux. « Que voulez-vous ? » « La liberté de Mademoiselle d'Étanges. » Vous savez le prix?
Oui.
Et vous acceptez?
J'accepte toutes vos conditions.
Ah, fit l'Anglais, étonné. Mais vous avez refusé. Pour vous,
il s'agissait de moi, monsieur Sholmès. Maintenant, il s'agit d'une femme, et d'une femme que j'aime. En France, voyez-vous, nous avons des idées très particulières sur ces choses-là. Et ce n'est pas parce que l'on s'appelle Lupin que l'on agit différemment. Au contraire.
Il dit cela très calmement. Sholmès eut une imperceptible inclinaison de la tête et murmura, « Alors, le diamant bleu. Prenez ma canne, là, au coin de la cheminée. Serrez d'une main la pomme et de l'autre, tournez la virole de fer qui termine l'extrémité opposée du bâton. » Sholmès prit la canne et tourna la virole, et tout en tournant, il s'aperçut que la pomme se dévissait. À l'intérieur de cette pomme se trouvait une boule de mastic. Dans cette boule, un diamant. Il l'examina. C'était le diamant bleu.
Mademoiselle d'Étanges est libre, monsieur Lupin.
Libre dans l'avenir comme dans le présent? Elle n'a rien à craindre de vous?
Ni de personne.
Quoi qu'il arrive?
Quoi qu'il arrive,
je ne sais plus son nom, ni son adresse.
Merci et au revoir.
Quand on se reverra, n'est-ce pas, monsieur Sholmès?
Je n'en doute pas.
Il y eut entre l'Anglais et Ganimard une explication assez agitée à laquelle Sholmès coupa court avec une certaine brusquerie.
« Je regrette beaucoup, monsieur Ganimard, de n'être point de votre avis, mais je n'ai pas le temps de vous convaincre. Je pars pour l'Angleterre dans une heure.
Cependant, la dame blonde,
je ne connais pas cette personne.
Il n'y a qu'un instant.
C'est à prendre ou à laisser. Je vous ai déjà livré Lupin. Voici le diamant bleu. Que vous aurez le plaisir de remettre vous-même à la comtesse de Crozon. Il me semble que vous n'avez pas à vous plaindre.
Mais la dame blonde,
trouvez-la.
Il enfonça son chapeau sur sa tête et s'en alla rapidement, comme un monsieur qui n'a pas coutume de s'attarder lorsque ses affaires sont finies.
Bon voyage, maître, cria Lupin, et croyez bien que je n'oublierai jamais les relations cordiales que nous avons entretenues. Mes amitiés à M. Wilson.
Il n'obtint aucune réponse et ricana. C'est ce qui s'appelle filer à l'anglaise.
Ah, ce digne insulaire ne possède pas cette fleur de courtoisie par laquelle nous nous distinguons.
Pensez un peu, Ganimard, à la sortie qu'un Français eût effectuée en de pareilles circonstances. Sous quel raffinement de politesse il eût masqué son triomphe.
Mais Dieu me pardonne, Ganimard, que faites-vous?
Allons bon, une perquisition?
Mais il n'y a plus rien, mon pauvre ami, plus un papier. Mes archives sont en lieu sûr.
Qui sait, qui sait?
Lupin se résigna. Tenu par deux inspecteurs, entouré par tous les autres, il assista patiemment aux diverses opérations. Mais au bout de 20 minutes, il soupira.
Vite, Ganimard, vous n'en finissez pas?
Vous êtes donc bien pressé?
Si je suis pressé, un rendez-vous urgent.
Au dépôt?
Non, en ville.
Bah, et à quelle heure?
À 2 heures.
Il en est 3.
Justement, je serai en retard. Il n'est rien que je déteste comme d'être en retard.
Me donnez-vous 5 minutes?
Pas une de plus.
Trop aimable. Je vais tâcher.
Ne parlez pas tant. Encore ce placard?
Mais il est vide.
Cependant, voici des lettres.
De vieilles factures.
Non. Un paquet attaché par une faveur.
Une faveur rose?
Oh, Ganimard, ne dénouez pas pour l'amour du ciel.
C'est d'une femme?
Oui.
Une femme du monde?
Du meilleur.
Son nom?
Madame Ganimard.
Très drôle, s'écria l'inspecteur d'un ton pincé.
À ce moment, les hommes envoyés dans les autres pièces annoncèrent que les perquisitions n'avaient abouti à aucun résultat. Lupin se mit à rire.
Parbleu, est-ce que vous espériez découvrir la liste de mes camarades ou la preuve de mes relations avec l'empereur d'Allemagne?
Ce qu'il faudrait chercher, Ganimard, ce sont les petits mystères de cet appartement. Ainsi, ce tuyau de gaz est un tuyau acoustique. Cette cheminée contient un escalier. Cette muraille est creuse.
Et l'enchevêtrement des sonneries.
Tenez, Ganimard, pressez ce bouton.
Ganimard obéit.
« Vous n'entendez rien ?»
interrogea Lupin.
« Non. »
« Moi non plus. Pourtant, vous avez averti le commandant de mon parc aérostatique de préparer le ballon dirigeable qui va nous enlever bientôt dans les airs. »
« Allons, » dit Ganimard, qui avait terminé son inspection, « assez de bêtises et en route. »
Il fit quelques pas, les hommes le suivirent. Lupin ne bougea point d'une semelle. Ses gardiens le poussèrent. En vain.
« Eh bien, » dit Ganimard, « vous refusez de marcher ?»«
Pas du tout. »
« En ce cas ?»«
Mais ça dépend. »«
De quoi ?»«
De l'endroit où vous me conduirez. »«
Au dépôt, parbleu. » !»«
Alors je ne marche pas. » « Je n'ai rien à faire au dépôt. »«
Mais vous êtes fou. »
« N'ai-je pas eu l'honneur de vous prévenir que j'avais un rendez-vous urgent ?»«
Lupin !»«
Comment, Ganimard, la dame blonde attend ma visite, et vous me supposez assez grossier pour la laisser dans l'inquiétude ? Ce serait indigne d'un galant homme. »
« Écoutez, Lupin, dit l'inspecteur, que ce persiflage commençait à irriter, j'ai eu pour vous jusqu'ici des prévenances excessives, mais il y a des limites. Suivez-moi. »
« Impossible. J'ai un rendez-vous. Je serai à ce rendez-vous. »
« Une dernière fois ? » ?»«
Impossible !»
Ganimard fit un signe. Deux hommes enlevèrent Lupin sous les bras, mais ils le lâchèrent aussitôt avec un gémissement de douleur. De ses deux mains, Arsène enfonçait dans la chair deux longues aiguilles. Fou de rage, les autres se précipitèrent, leur haine enfin déchaînée, brûlant de venger leurs camarades et se venger eux-mêmes de tant d'affronts. Et ils frappèrent, et ils cognèrent à l'envi. Un coup plus violent l'atteignit à la tempe. Il tomba.
« Si vous l'abîmez, gronda Ganimard, furieux, vous aurez affaire à moi. »
Il se pencha, prêt à le soigner. Mais, ayant constaté qu'il respirait librement, il ordonna qu'on le prît par les pieds et par la tête, tandis que lui-même le soutiendrait par les reins. « Allez doucement surtout, pas de secousses. Allez, brute, il me l'aurait tué. Et Lupin, comment ça va ?»
Lupin ouvrait les yeux, il balbutia.
« Pas chic, Ganimard, vous m'avez laissé démolir. »«
C'est de votre faute, nom d'un chien. »«
Avec votre entêtement, » répondit Ganimard. « Désolé, mais vous ne souffrez pas. »
On arrivait au palier. Lupin gémit.
« Ganimard, l'ascenseur, ils vont me casser les os. »
« Bonne idée. Excellente idée, » approuva Ganimard.
« D'ailleurs, l'escalier ici est étroit. Il n'y aurait pas moyen. »
Il fit monter l'ascenseur. On installa Lupin sur le siège avec toutes sortes de précautions. Ganimard prit place auprès de lui et dit à ses hommes, « Descendez en même temps que nous. Vous m'attendrez devant la loge du concierge. C'est convenu ?» Il tira la porte. Mais elle n'était pas fermée que des cris jaillirent. D'un bond, l'ascenseur s'était élevé comme un ballon dont on a coupé le câble. Un éclat de rire retentit, sardonique.
« Nom de Dieu !» hurla Ganimard, cherchant frénétiquement dans l'ombre le bouton de descente. Et comme il ne trouvait pas, il cria, « Le cinquième ! Gardez la porte du cinquième !»
Quatre à quatre, les agents grimpèrent l'escalier. Mais il se produisit ce fait étrange. L'ascenseur sembla crever le plafond du dernier étage, disparut aux yeux des agents, émergea soudain à l'étage supérieur, celui des domestiques, et s'arrêta. Trois hommes guettaient et ouvrirent la porte. Deux d'entre eux maîtrisèrent Ganimard, lequel, gêné dans ses mouvements, abasourdi, ne songeait guère à se défendre. Le troisième emporta Lupin.
« Je vous avais prévenu, Ganimard. L'enlèvement en ballon, et grâce à vous, une autre fois, soyez moins compatissant. Et surtout, rappelez-vous qu'Arsène Lupin ne se laisse pas frapper et mettre à mal sans des raisons sérieuses. Adieu. »
La cabine était déjà refermée et l'ascenseur, avec Ganimard, réexpédié vers les étages inférieurs. Et tout cela s'exécuta si rapidement que le vieux policier rattrapa les agents près de la loge de la concierge. Sans même se donner le mot, ils traversèrent la cour en toute hâte et remontèrent l'escalier de service, seul moyen d'arriver à l'étage des domestiques par où l'évasion s'était produite. Un long couloir à plusieurs coudes et bordé de petites chambres numérotées conduisait à une porte que l'on avait simplement repoussée. De l'autre côté de cette porte, et par conséquent dans une autre maison, partait un autre couloir, également à angles brisés et bordé de chambres semblables. Tout au bout, un escalier de service.
Ganimard le descendit, traversa une cour, un vestibule et s'élança dans une rue, la rue Picot. Alors il comprit. Les deux maisons, bâties en profondeur, se touchaient, et leurs façades donnaient sur deux rues, non point perpendiculaires, mais parallèles, et distantes l'une de l'autre de plus de 60 mètres. Il entra dans la loge de la concierge et montrant sa carte. « Quatre hommes viennent de passer ?»« Oui, les deux domestiques du quatrième et du cinquième, et deux amis. » Qu'est-ce qui habite au quatrième et au cinquième? C'est M. Fauvel et leur cousin Provost. Ils ont déménagé aujourd'hui. Il ne restait que ces deux domestiques. Ils viennent de partir. Ah, pensa Ganimard, qui s'effondra sur un canapé de la loge, quel beau coup nous avons manqué. Toute la bande occupait ce pâté de maison. 40 minutes plus tard, deux messieurs arrivaient en voiture à la gare du Nord et se hâtaient vers le rapide de Calais, suivi d'un homme d'équipe qui portait leur valise. L'un d'eux avait le bras en écharpe, et sa figure pâle n'offrait pas l'apparence de la bonne santé. L'autre semblait joyeux. « Au galop, Wilson, il ne s'agit pas de manquer le train. Ah, Wilson, je n'oublierai jamais ces 10 jours. Moi non plus. Ah, les belles batailles. Superbes. À peine, ça et là, quelques petits ennuis. Bien petits. » Et finalement, le triomphe sur toute la ligne. Lupin arrêté, le diamant bleu reconquis. Mon bras cassé. Quand il s'agit de pareille satisfaction, qu'importe un bras cassé. Surtout le mien. Eh oui, rappelez-vous, Wilson, c'est au moment même où vous étiez chez le pharmacien, en train de souffrir comme un héros, que j'ai découvert le fil qui m'a conduit dans les ténèbres. Quelle heureuse chance. Des portières se fermaient. En voiture, s'il vous plaît. Pressons-nous, messieurs. L'homme d'équipe escalada les marches d'un compartiment vide et disposa les valises dans le filet, tandis que Sholmès hissait l'infortuné Wilson. Mais qu'avez-vous, Wilson? Vous n'en finissez pas. Du nerf, vieux camarade. Ce n'est pas le nerf qui me manque. Mais quoi? Je n'ai qu'une main de disponible. Et après, s'exclama joyeusement Sholmès, en voilà des histoires. On croira qu'il n'y a que vous dans cet état. Et les manchots, les vrais manchots. Allons, ça y est-il, ce n'est pas dommage. » Il tendit à l'homme d'équipe une pièce de 50 centimes. « Bien, mon ami, voici pour vous. »« Merci, monsieur Sholmès. » L'Anglais leva les yeux. « Arsène Lupin. »« Vous, vous, » balbutia-t-il, ahuri. Et Wilson bégaya, en brandissant son uniquement avec des gestes de quelqu'un qui démontre un fait. « Vous, vous, mais vous êtes arrêté. Sholmès me l'a dit. Quand il vous a quitté, Ganimard et ses 30 agents vous entouraient. » Lupin croisa ses bras et, d'un air indigné, « Alors, vous avez supposé que je vous laisserais partir sans vous dire adieu. Après les excellents rapports d'amitié que nous n'avons jamais cessé d'avoir les uns avec les autres, mais ce serait de la dernière incorrection. Pour qui me prenez-vous? » Le train sifflait. « Enfin, je vous pardonne. Mais avez-vous ce qu'il vous faut? Du tabac, des allumettes, oui, et les journaux du soir. Vous y trouverez des détails sur mon arrestation, votre dernier exploit, maître. Et maintenant, au revoir. Et enchanté d'avoir fait votre connaissance. Enchanté, vraiment. » Et si vous avez besoin de moi, je serai trop heureux. » Il sauta sur le quai et referma la portière. « Adieu, » fit-il encore, en agitant son mouchoir. « Adieu, je vous écrirai. Vous aussi, n'est-ce pas? Et votre bras cassé, monsieur Wilson. J'attends de vos nouvelles à tous deux. Une carte postale de temps à autre, comme adresse. Lupin, Paris, c'est suffisant. Inutile d'affranchir. Adieu. » À bientôt. Fin de la section 12.
Section 13 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, par Maurice Leblanc. Deuxième épisode. La lampe juive. Section 13. La lampe juive, chapitre 1. Herlock Sholmès et Wilson étaient assis à droite et à gauche de la grande cheminée, les pieds allongés vers un confortable feu de coke. La pipe de Sholmès, une courte bruyère à virole d'argent, s'éteignit. Il en vida les cendres, la bourra de nouveau, l'alluma, ramena sur ses genoux les pans de sa robe de chambre et sortit de sa pipe de longues bouffées qu'il s'ingéniait à lancer au plafond en petits anneaux de fumée. Wilson le regardait. Il le regardait comme le chien couché en cercle sur le tapis du foyer regarde son maître, avec des yeux ronds sans battement de paupières, des yeux qui n'ont d'autre espoir que de refléter le geste attendu. Le maître allait-il rompre le silence? Allait-il lui révéler le secret de sa songerie actuelle et l'admettre dans le royaume de la méditation dont il semblait à Wilson que l'entrée lui était interdite? Sholmès se taisait. Wilson risqua. Les temps sont calmes. Pas une affaire à nous mettre sous la dent. Sholmès se tut de plus en plus violemment. Mais ses anneaux de fumée étaient de mieux en mieux réussis, et tout autre que Wilson eût observé qu'il en tirait cette profonde satisfaction que nous donnent ces menus succès d'amour-propre, aux heures où le cerveau est complètement vide de pensée. Wilson, découragé, se leva et s'approcha de la fenêtre. La triste rue s'étendait entre les façades mornes des maisons, sous un ciel noir d'où tombait une pluie méchante et rageuse. Un cab passa. Un autre cab. Wilson en inscrivit les numéros sur son calepin. Sait-on jamais? « Tiens! » s'écria-t-il. « Le facteur! » L'homme entra, conduit par le domestique. « Deux lettres recommandées, monsieur. Si vous voulez signer... » Sholmès signa le registre, accompagna l'homme jusqu'à la porte et revint tout en décachetant l'une des lettres. « Vous avez l'air tout heureux, » nota Wilson au bout d'un instant. « Cette lettre contient une proposition fort intéressante. Vous qui réclamiez une affaire, en voici une. Lisez. » Wilson lut. « Monsieur, je viens vous demander le secours de votre expérience. J'ai été victime d'un vol important, et les recherches effectuées jusqu'ici semblent pas devoir aboutir. Je vous envoie par ce courrier un certain nombre de journaux qui vous renseigneront sur cette affaire. Et, s'il vous agrée de la poursuivre, je mets mon hôtel à votre disposition et vous prie d'inscrire sur le chèque-ci inclus, signé de moi, la somme qu'il vous plaira de fixer pour vos frais de déplacement. Veuillez avoir l'obligeance de me télégraphier votre réponse et croyez, monsieur, à l'assurance de mes sentiments de haute considération. Baron Victor d'Imbleval, 18 rue Muriot. Hé, hé, fit Sholmès, voilà qui s'annonce à merveille. Un petit voyage à Paris. Ma foi, pourquoi pas? Depuis mon fameux duel avec Arsène Lupin, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Je ne serais pas fâché de voir la capitale du monde dans des conditions un peu plus tranquilles. Il déchira le chèque en quatre morceaux, et tandis que Wilson, dont le bras n'avait pas recouvré son ancienne souplesse, prononçait contre Paris des mots amers, il ouvrit la seconde enveloppe. Tout de suite, un mouvement d'irritation lui échappa. Un pli barra son front pendant toute la lecture, et froissant le papier, il en fit une boule qu'il jeta violemment sur le parquet. « Quoi? Qu'y a-t-il? » s'écria Wilson, effaré. Il ramassa la boule, la déplia, et lut avec une stupeur croissante. « Mon cher maître, vous savez l'admiration que j'ai pour vous et intérêt que je prends à votre renommée. Eh bien, croyez-moi, ne vous occupez point de l'affaire à laquelle on vous sollicite de concourir. » Votre intervention causerait beaucoup de mal. Tous vos efforts n'amèneraient qu'un résultat pitoyable, et vous seriez obligé de faire publiquement l'aveu de votre échec. Profondément désireux de vous épargner une telle humiliation, je vous conjure, au nom de l'amitié qui nous unit, de rester bien tranquillement au coin de votre feu. Mes bons souvenirs à M. Wilson, et pour vous, mon cher maître, le respectueux hommage de votre dévoué, Arsène Lupin. Arsène Lupin, répéta Wilson, confondu. Sholmès se mit à frapper la table à coups de poing. Ah, mais il commence à m'embêter, cet animal-là. Il se moque de moi comme d'un gamin. L'aveu public de mon échec. Ne l'ai-je pas contraint à rendre le diamant bleu?
Il a peur, insinua Wilson.
Vous dites des bêtises.
Arsène Lupin n'a jamais peur, et la preuve, c'est qu'il me provoque. Mais comment a-t-il connaissance de la lettre que nous envoie le baron d'Imbleval?
Qu'est-ce que j'en sais? Vous me posez des questions stupides, mon cher.
Je pensais, j'imaginais...
Quoi? Que je suis sorcier?
Non, mais je vous ai vu faire de tels prodiges.
Personne ne fait de prodiges. Moi, pas plus qu'un autre. Je réfléchis, je déduis, je conclus, mais je ne devine pas. Il n'y a que des imbéciles qui devinent.
Wilson prit l'attitude modeste d'un chien battu et s'efforça, afin de n'être pas un imbécile, de ne point deviner pourquoi Sholmès arpentait la chambre à grands pas irrités. Mais Sholmès, ayant sonné son domestique et lui ayant commandé sa valise, Wilson se crut en droit, puisqu'il y avait là un fait matériel, de réfléchir, de déduire et de conclure que le maître partait en voyage. La même opération d'esprit lui permit d'affirmer, en homme qui ne craint pas l'erreur, « Herlock, vous allez à Paris ?»«
Possible. »
« Et vous y allez plus encore pour répondre à la provocation de Lupin que pour obliger le baron d'Imbleval ?»«
Possible. »
« Herlock, je vous accompagne. »«
Ah ! Ah, vieil ami !» s'écria Sholmès en interrompant sa promenade. « Vous n'avez donc pas peur que votre bras gauche ne partage le sort de votre bras droit ?»«
Que peut-il m'arriver ? Vous serez là ?»«
À la bonne heure, vous êtes un gaillard. Et nous allons montrer à ce monsieur qu'il a peut-être tort de nous jeter le gant avec tant d'effronterie. Vite, Wilson, et rendez-vous au premier train. »
Sans attendre les journaux dont le baron vous annonce l'envoi?
À quoi bon?
J'expédie un télégramme?
Inutile. Arsène Lupin connaîtrait mon arrivée. Je n'y tiens pas.
Cette fois, Wilson, il faut jouer serré. L'après-midi, les deux amis s'embarquaient à Douvres. La traversée fut excellente. Dans le rapide de Calais à Paris, Sholmès s'offrit 3 heures de sommeil le plus profond, tandis que Wilson faisait bonne garde à la porte du compartiment et méditait, l'œil vague. Sholmès s'éveilla heureux et dispos. La perspective d'un nouveau duel avec Arsène Lupin le ravissait. Il se frotta les mains de l'air satisfait d'un homme qui se prépare à goûter des joies abondantes. « Enfin !» s'exclama Wilson. « On va se dégourdir. » Et il se frotta les mains du même air satisfait. En gare, Sholmès prit les plaies. Et, suivi de Wilson qui portait les valises, chacun son fardeau. Il donna les tickets et sortit allègrement.
« Beau temps, Wilson, du soleil. Paris est en fête pour nous recevoir. »«
Quelle foule !»«
Tant mieux, Wilson. Nous ne risquons pas d'être remarqués. Personne ne nous reconnaîtra au milieu d'une telle multitude. »
« Monsieur Sholmès, n'est-ce pas ?» Il s'arrêta, quelque peu interloqué. Qui diable pouvait ainsi le désigner par son nom ? Une femme se tenait à ses côtés, une jeune fille, dont la mise très simple soulignait la silhouette distinguée, et dont la jolie figure avait une expression inquiète et douloureuse. Elle répéta, « Vous êtes bien, monsieur Sholmès ?» Comme il se taisait, autant par désarroi que par habitude de prudence, elle redit une troisième fois. « C'est bien à M. Sholmès que j'ai l'honneur de parler. »«
Comme voulez-vous, » dit-il, assez bourru, croyant à une rencontre douteuse. Elle se planta devant lui.
« Écoutez-moi, monsieur, c'est très grave. Je sais que vous allez rue Muriot. »«
Que dites-vous ? » ?»«
Je sais, rue Muriot, au numéro 18. »« Eh bien, il ne faut pas, non. » Vous ne devez pas y aller. Je vous assure que vous le regretteriez. Si je vous dis cela, ne pensez pas que j'y ai quelque intérêt. C'est par raison. C'est en toute conscience. »
Il essaya de l'écarter. Elle insista.
« Oh, je vous en prie, ne vous obstinez pas. Ah, si je savais comment vous convaincre. Regardez tout au fond de moi, tout au fond de mes yeux. Ils sont sincères. Ils disent la vérité. »
Elle offrait ses yeux éperdument, de ses beaux yeux graves et limpides, où semble se réfléchir l'âme elle-même. Wilson hocha la tête.
« Mademoiselle a l'air bien sincère. »« Mais oui, implora-t-elle, il faut avoir confiance. »«
J'ai confiance, mademoiselle, » répliqua Wilson.
« Oh, comme je suis heureuse. Et votre ami aussi, n'est-ce pas ? Je le sens, j'en suis sûr. Quel bonheur. Tout va s'arranger. Ah ! La bonne idée que j'ai eue. Tenez, monsieur, il y a un train pour Calais dans 20 minutes. Eh bien, vous le prendrez,
Vite, suivez-moi. Le chemin est de ce côté. Et vous n'avez que le temps. »
Elle cherchait à l'entraîner. Sholmès lui saisit le bras et d'une voix qu'il cherchait à rendre aussi douce que possible,
« Excusez-moi, mademoiselle, de ne pouvoir accéder à votre désir, mais je n'abandonne jamais une tâche que j'ai entreprise.
Je vous en supplie, je vous en supplie. Ah, si vous pouviez comprendre !» Il passa outre et s'éloigna rapidement. Wilson dit à la jeune fille, « Ayez bon espoir. Il ira jusqu'au bout de l'affaire. Il n'y a pas d'exemple qu'il ait encore échoué. » Et il rattrapa Sholmès en courant. Herlock Sholmès, Arsène Lupin. Ces mots qui se détachaient en grosses lettres noires les heurtèrent au premier pas. Ils s'approchèrent. Une théorie d'hommes sandwich déambulait les uns derrière les autres, portant à la main de lourdes cannes ferrées dont ils frappaient le trottoir en cadence, et sur le dos d'énormes affiches où l'on pouvait lire « Le match Herlock Sholmès, Arsène Lupin. Arrivée du champion anglais. Le grand détective s'attaque au ministère de la rue Muriot. Lire les détails dans l'Écho de France. » Wilson hocha la tête. « Dis donc, Herlock, nous qui nous flattions de travailler incognito. Je ne serais pas étonné que la garde républicaine nous attendît rue Muriot et qu'il y eut réception officielle, avec toast et champagne.
Quand vous vous mettez à avoir de l'esprit, Wilson, vous en valez deux, grinça Sholmès.
Il s'avança vers l'un de ses hommes avec l'intention très nette de le prendre entre ses mains puissantes et de le réduire en miettes, lui et son placard. La foule, cependant, s'attroupait autour des affiches. On plaisantait et l'on riait. Réprimant un furieux accès de rage, il dit à l'homme, « Quand vous a-t-on embauché ?»«
Ce matin. » »«
Vous avez commencé votre promenade ?»«
Il y a une heure. »
Mais les affiches étaient prêtes?
Ah, dame, oui. Lorsque nous sommes venus ce matin à l'agence, elles étaient là.
Ainsi donc, Arsène Lupin avait prévu que lui, Sholmès, accepterait la bataille. Bien plus, la lettre écrite par Lupin prouvait qu'il désirait cette bataille et qu'il entrait dans ses plans de se mesurer une fois de plus avec son rival. Pourquoi? Quel motif le poussait à recommencer la lutte? Herlock eut une seconde d'hésitation. Il fallait vraiment que Lupin fût bien sûr de la victoire pour montrer tant d'insolence, et n'était-ce pas tomber dans le piège que d'accourir ainsi au premier appel.
« Allons-y, Wilson. Cocher 18 rue Muriot, s'écria-t-il en un réveil d'énergie. Et les veines gonflées, les poings serrés comme s'il allait se livrer à un assaut de boxe, il sauta dans une voiture. La rue Muriot est bordée de luxueux hôtels particuliers dont la façade postérieure a vue sur le parc Monceau. Une des plus belles parmi ces demeures s'élève au numéro 18, et le baron d'Imbleval, qui l'habite avec sa femme et ses enfants, l'a meublé de la façon la plus somptueuse, en artiste et en millionnaire. Une cour d'honneur précède l'hôtel, et des communs le bordent à droite et à gauche. En arrière, un jardin mêle les branches de ses arbres aux arbres du parc. Après avoir sonné, les deux Anglais franchirent la cour et furent reçus par un valet de pied qui les conduisit dans un petit salon situé sur l'autre façade. Ils s'assirent et inspectèrent d'un coup d'œil rapide les objets précieux qui encombraient ce boudoir. « De jolies choses, » murmura Wilson, « du goût et de la fantaisie. On peut déduire que ceux qui ont eu le loisir de dénicher ces objets sont des gens d'un certain âge, 50 ans peut-être. » Il n'acheva pas. La porte s'était ouverte. Et M. d'Imbleval entrait, suivi de sa femme. Contrairement aux déductions de Wilson, ils étaient tous deux jeunes, de tournure élégante, et très vifs d'allure et de parole. Tous deux, ils se confondirent en remerciements.
« C'est trop gentil à vous, un pareil dérangement. Nous sommes presque heureux de l'ennui qui nous arrive, puisque cela nous procure le plaisir.
Quel charmeur que ces Français !» pensa Wilson, qu'une observation profonde n'effrayait pas.
« Mais la temps et de l'argent, s'écria le baron, le vôtre surtout, monsieur Sholmès.
Aussi droit au but. Que pensez-vous de l'affaire? Espérez-vous la mener à bien?
Pour la mener à bien, il faudrait d'abord la connaître.
Vous ne la connaissez pas?
Non,
et je vous prie de m'expliquer les choses par le menu et sans rien omettre. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un vol. Quel jour a-t-il eu lieu ?
Samedi dernier, répliqua le baron, dans la nuit de samedi à dimanche.
Il y a donc 6 jours. Maintenant, je vous écoute.
Il faut dire d'abord, monsieur, que ma femme et moi, tout en nous conformant au genre de vie qu'exige notre situation, nous sortons peu. L'éducation de nos enfants, quelques réceptions et l'embellissement de notre intérieur, voilà notre existence et toutes nos soirées ou à peu près s'écoulent ici, dans cette pièce qui est le boudoir de ma femme et où nous avons réuni quelques objets d'art. Samedi dernier donc, vers 11 heures, j'éteignis l'électricité et ma femme et moi, nous nous retirâmes comme d'habitude dans notre chambre.
Qui se trouve ?
À côté, cette porte que vous voyez. Le lendemain, c'est-à-dire dimanche, je me levai de bonne heure. Comme Suzanne, ma femme, dormait encore, je passai dans ce boudoir aussi doucement que possible pour ne pas la réveiller. Quel fut mon étonnement en constatant que cette fenêtre était ouverte alors que, la veille au soir, nous l'avions laissée fermée. Un domestique ?
Personne n'entre ici le matin avant que nous n'ayons sonné.
Du reste, je prends toujours la précaution de pousser le verrou de cette seconde porte, laquelle communique avec l'antichambre. Donc la fenêtre avait bien été ouverte du dehors. J'en eus d'ailleurs la preuve, le second carreau de la croisée de droite près de l'espagnolette avait été découpé.
Et cette fenêtre ?
Cette fenêtre, comme vous pouvez vous en rendre compte, donne sur une petite terrasse entourée d'un balcon de pierre. Nous sommes ici au premier étage, et vous apercevez le jardin qui s'étend derrière l'hôtel, et la grille qui le sépare du parc Monceau. Il y a donc certitude que l'homme est venu du parc Monceau, a franchi la grille à l'aide d'une échelle, et est monté jusqu'à la terrasse.
Il y a certitude, dites-vous ?
On a trouvé de chaque côté de la grille, dans la terre molle, des plates-bandes, des trous laissés par les deux montants de l'échelle, et les deux mêmes trous existaient au bas de la terrasse. Enfin, le balcon porte de légères éraflures, causées évidemment par le contact des montants.
Le parc Monceau n'est-il pas fermé la nuit ?
Fermé, non. Mais en tout cas, au numéro 14, il y a un hôtel en construction. Il était facile de pénétrer par là.
Herlock Sholmès réfléchit quelques moments et reprit. Arrivons au vol.
Il aura donc été commis dans la pièce où nous sommes.
Oui. Il y avait entre cette vierge du XIIe siècle et ce tabernacle en argent ciselé, il y avait une petite lampe juive. Elle a disparu.
Et c'est tout ?
C'est tout.
Ah ! Et qu'appelez-vous une lampe juive ?
Ce sont de ces lampes en cuivre dont on se servait autrefois, composées d'une tige et d'un récipient où l'on mettait l'huile. De ce récipient s'échappaient 2 ou plusieurs becs destinés aux mèches.
Somme toute, des objets sans grande valeur.
Sans grande valeur, en effet, mais celle-ci contenait une cachette où nous avions d'habitude de placer un magnifique bijou ancien. Une chimère en or, sertie de rubis et d'émeraudes, qui était d'un très grand prix.
Pourquoi cette habitude ?
Ma foi, messieurs, je ne saurais trop dire.
Peut-être le simple amusement d'utiliser une cachette de ce genre.
Personne ne la connaissait ?
Personne.
Sauf, évidemment, le voleur de la chimère, objecta Sholmès, sans quoi il n'eût pas pris la peine de voler la lampe juive.
Évidemment.
Mais comment pouvait-il le connaître, puisque c'est le hasard qui nous a révélé le mécanisme secret de cette lampe ?
Le même hasard a pu le révéler à quelqu'un, un domestique, un familier de la maison.
Mais continuons, la justice a été prévenue ?
Sans doute. Le juge d'instruction a fait son enquête. Les chroniqueurs détectives attachés à chacun des grands journaux ont fait la leur. Mais, ainsi que je vous l'ai écrit, il ne semble pas que le problème ait la moindre chance d'être jamais résolu.
Sholmès se leva, se dirigea vers la fenêtre, examina la croisée, la terrasse, le balcon, se servit de sa loupe pour étudier les 2 éraflures de la pierre et pria M. d'Imbleval de le conduire dans le jardin.
Dehors, Sholmès s'assit tout simplement sur un fauteuil d'osier et regarda le toit de la maison d'un œil rêveur. Puis il marcha soudain vers 2 petites cassettes en bois avec lesquelles on avait recouvert, afin d'en conserver l'empreinte exacte,
les trous laissés au pied de la terrasse par les montants de l'échelle. Il enleva les caissettes, se mit à genoux sur le sol, et, le dos rond, le nez à 20 centimètres du sol, il scruta, prit des mesures. Même opération le long de la grille, mais moins longue. C'était fini. Tous deux s'en retournèrent au boudoir où les attendait Madame d'Imblevalle. Sholmès garda le silence quelques minutes encore, puis prononça ces paroles. « Dès le début de votre récit, monsieur le baron, j'ai été frappé par le côté vraiment trop simple de l'agression. Appliquer une échelle, couper un carreau, choisir un objet et s'en aller, non. Les choses ne se passent pas aussi facilement. Tout cela est trop clair, trop net. De sorte que le vol de la lampe juive a été commis sous la direction d'Arsène Lupin. « Arsène Lupin !» s'exclama le baron. « Mais il a été commis en dehors de lui, sans que personne entrât dans cet hôtel. Un domestique peut-être qui sera descendu de sa mansarde sur la terrasse, le long d'une gouttière que j'ai aperçue du jardin. »« Mais sur quelle preuve ? » ?»« Arsène Lupin ne serait pas sorti du boudoir les mains vides. »« Les mains vides et la lampe ?» Prendre la lampe ne l'eût pas empêché de prendre cette tabatière enrichie de diamants ou ce collier de vieille opale. Il lui suffisait de deux gestes en plus. S'il ne les a pas accomplis, c'est qu'il ne l'a pas vu. Cependant, les traces relevées... Comédie. Mise en scène pour détourner les soupçons. Les éraflures de la balustrade. Mensonge. Elles ont été produites avec du papier de verre. Tenez, voici quelques brins de papier que j'ai recueillis. Les marques laissées par les montants de l'échelle. De la blague. Examinez les deux trous rectangulaires du bas de la terrasse et les deux trous situés près de la grille. Leur forme est semblable, mais, parallèles ici, ils ne le sont plus là-bas. Mesurez la distance qui sépare chaque trou de son voisin. L'écart change selon l'endroit. Au pied de la terrasse, il est de 23 centimètres. Le long de la grille, il est de 28 centimètres. Et vous en concluez ? J'en conclus, puisque leur forme est identique, que les quatre trous ont été faits à l'aide d'un seul et unique bout de bois convenablement taillé. Le meilleur argument serait ce bout de bois lui-même. « Le voici, » dit Sholmès. « Je l'ai ramassé dans le jardin, sous la caisse d'un laurier. » Le baron s'inclina. Il y avait 40 minutes que l'Anglais avait franchi le seuil de cette porte, et il ne restait plus rien de tout ce que l'on avait cru jusqu'ici sur le témoignage même des faits apparents. La réalité, une autre réalité, se dégageait, fondée sur quelque chose de beaucoup plus solide, le raisonnement d'un Herlock Sholmès. « L'accusation que vous lancez contre notre personnel est bien grave, monsieur, » dit la baronne. « Nos domestiques sont d'anciens serviteurs de la famille, et aucun d'eux n'est capable de nous trahir. » « Si l'un d'eux ne vous trahissait pas, comment expliquer que cette lettre ait pu me parvenir le jour même et par le même courrier que celle que vous m'avez écrite ?» Il tendit à la baronne la lettre que lui avait adressée Arsène Lupin. Madame d'Imblevalle fut stupéfaite. « Arsène Lupin, comment t'es su ? Vous n'avez mis personne au courant de votre lettre ?»« Personne, dit le baron. C'est une idée que nous avons eue l'autre soir à table. Devant les domestiques, il n'y avait que nos deux enfants. Et encore, non, Sophie et Henriette n'étaient plus à table, n'est-ce pas, Suzanne ?» Madame d'Imblevalle réfléchit et affirma. « En effet, elles avaient rejoint mademoiselle. »« Mademoiselle ?» interrogea Sholmès. « La gouvernante, mademoiselle Alice Demun. Cette personne ne prend donc pas ses repas avec vous ?»« Non, on la sert à part, dans sa chambre. » Wilson eut une idée. « La lettre écrite à mon ami Herlock Sholmès a été mise à la poste ?»« Naturellement. » Qui donc la porta ? Dominique, mon valet de chambre depuis 20 ans, répondit le baron. Toute recherche de ce côté serait du temps perdu. On ne perd jamais son temps quand on cherche, dit Wilson, sentencieusement. La première enquête était terminée. Sholmès demanda la permission de se retirer. Une heure plus tard, au dîner, il vit Sophie et Henriette, les deux enfants des d'Imblevalle, deux jolies fillettes de 8 et de 6 ans. On causa peu. Sholmès répondit aux amabilités du baron et de sa femme d'un air si rébarbatif qu'ils se résolurent au silence. On servit le café. Sholmès avala le contenu de sa tasse et se leva. À ce moment, un domestique entra, qui apportait un message téléphonique à son adresse. Il ouvrit et lut. « Vous envoie mon admiration enthousiaste. Les résultats obtenus par vous en si peu de temps sont étourdissants. Je suis confondu. » Arpin Lucène. Il eut un geste d'agacement et montrant la dépêche au baron. « Commencez-vous à croire, monsieur, que vos murs ont des yeux et des oreilles ?»«
Je n'y comprends rien, » murmura M. d'Imbleval, abasourdi.
« Moi non plus. Mais ce que je comprends, c'est que pas un mouvement ne se fait ici qui ne soit aperçu par lui. Pas un mot ne se prononce qu'il ne l'entende. » Ce soir-là, Wilson se coucha avec la conscience légère d'un homme qui a rempli son devoir et qui n'a plus d'autre besogne que de s'endormir. Aussi s'endormit-il très vite, et de beaux rêves le visitèrent où il poursuivait Lupin à lui seul et se disposait à l'arrêter de sa propre main, et la sensation de cette poursuite était si nette qu'il se réveilla. Quelqu'un frôlait son lit. Il saisit son revolver. Un geste encore, Lupin, et je tire.
« Diable ! Comme vous y allez, vieux camarade !
Comment ? C'est vous, Sholmès ? Vous avez besoin de moi ?
J'ai besoin de vos yeux. Levez-vous. »
Il le mena vers la fenêtre. « Regardez, de l'autre côté de la grille.
Dans le parc ?
Oui.
Vous ne voyez rien ?
Je ne vois rien.
Si, vous voyez quelque chose.
Ah, en effet, une ombre. Deux même.
N'est-ce pas ?
Contre la grille. Tenez, elle remue. Ne perdons pas de temps. » À tâtons, en se tenant à la rampe, ils descendirent l'escalier et arrivèrent dans une pièce qui donnait sur le perron du jardin. À travers les vitres de la porte, ils aperçurent les deux silhouettes à la même place.
« C'est curieux, » dit Sholmès. « Il me semble entendre du bruit dans la maison. »«
Dans la maison ? Impossible, tout le monde dort. » »«
Écoutez, cependant. »
À ce moment, un léger coup de sifflet vibra du côté de la grille. Ils aperçurent une vague lumière qui paraissait venir de l'hôtel.
« Les d'Imbleval ont dû allumer, » murmura Sholmès. « C'est leur chambre qui est au-dessus de nous. »
« C'est eux sans doute que nous avons entendu, » fit Wilson. « Peut-être sont-ils en train de surveiller la grille. » Un second coup de sifflet, plus discret encore.
« Je ne comprends pas. »
« Je ne comprends pas, » dit Sholmès, agacé.
« Moi non plus, » confessa Wilson.
Sholmès tourna la clé de la porte, ôta le verrou et poussa doucement le battant. Un troisième coup de sifflet, un peu plus fort celui-ci, et modulé d'autre sorte. Et au-dessus de leur tête, le bruit s'accentua, se précipita.
« On croirait plutôt que c'est sur la terrasse du boudoir, » souffla Sholmès.
Il passa la tête dans l'entrebâillement, mais aussitôt recula en étouffant un juron. À son tour, Wilson regarda. Tout près d'eux, une échelle se dressait contre le mur, appuyée au balcon de la terrasse. « Et parbleu, » fit Sholmès, « il y a quelqu'un dans le boudoir. Voilà ce qu'on entendait. Vite, enlevons l'échelle. » Mais à cet instant, une forme glissa du haut en bas, l'échelle fut enlevée, et l'homme qui la portait courut en toute hâte vers la grille, à l'endroit où l'attendaient ses complices. D'un bond, Sholmès et Wilson s'étaient élancés. Ils rejoignirent l'homme alors qu'il posait l'échelle contre la grille. De l'autre côté, deux coups de feu jaillirent.
« Blessé ? » cria Sholmès.
« Non, » répondit Wilson. Il saisit l'homme par le corps et tenta de l'immobiliser. Mais l'homme se retourna, l'empoigna d'une main, et de l'autre lui plongea son couteau en pleine poitrine. Wilson exhala un soupir, vacilla et tomba.
« Damnation ! Hurla Sholmès ! Si on me l'a tué, je tue !»
Il étendit Wilson sur la pelouse et se rua sur l'échelle. Trop tard, l'homme l'avait escaladé et, reçu par ses complices, s'enfuyait parmi les massifs.
« Wilson, Wilson, ce n'est pas sérieux, hein ?
Une simple égratignure. » Les portes de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Le premier, M. d'Imbleval, survint, puis des domestiques, munis de bougies.
« Quoi ? Qu'y a-t-il ? S'écria le baron. Monsieur Wilson est blessé ? Rien, une simple égratignure, répéta Sholmès, cherchant à s'illusionner. Le sang coulait en abondance, et la face était livide. Le docteur, 20 minutes après, constata que la pointe du couteau s'était arrêtée à 4 millimètres du cœur. 4 millimètres du cœur. Ce Wilson a toujours eu de la chance, conclut Sholmès d'un ton d'envie. De la chance, grommela le docteur. Dame, avec sa robuste constitution, il en sera quitte. Pour 6 semaines de lit et 2 mois de convalescence. Pas davantage? Non, à moins de complications. Pourquoi diable voulez-vous qu'il y ait des complications? Pleinement rassuré, Sholmès rejoignit le baron au boudoir. Cette fois, le mystérieux visiteur n'y avait pas mis la même discrétion. Sans vergogne, il avait fait main basse sur la tabatière enrichie de diamants, sur le collier d'opale et, d'une façon générale, sur tout ce qui pouvait prendre place dans les poches d'un honnête cambrioleur. La fenêtre était encore ouverte. Un des carreaux avait été proprement découpé et, au petit jour, une enquête sommaire, en établissant que l'échelle provenait de l'hôtel en construction, indiqua la voie que l'on avait suivie. Bref, dit M. d'Imbleval avec une certaine ironie, c'est la répétition exacte du vol de la lampe juive. Oui, si l'on accepte la première version adoptée par la justice. Vous ne l'adoptez donc pas encore? Ce second vol n'ébranle pas votre opinion sur le premier? Il la confirme, monsieur. Est-ce croyable? Vous avez la preuve irréfutable que l'agression de cette nuit a été commise par quelqu'un du dehors, et vous persistez à soutenir que la lampe juive a été soustraite par quelqu'un de notre entourage? Par quelqu'un qui habite cet hôtel. Alors, comment expliquez-vous? Je n'explique rien, monsieur. Je constate 2 faits qui n'ont l'un avec l'autre que des rapports d'apparence. Je les juge isolément, et je cherche le lien qui les unit. Sa conviction semblait si profonde, ses façons d'agir fondées sur des motifs si puissants, que le baron s'inclina. Soit. Nous allons prévenir le commissaire. À aucun prix, s'écria vivement l'anglais, à aucun prix. J'entends ne m'adresser à ces gens que quand j'ai besoin d'eux. Cependant, les coups de feu, il n'importe. Votre ami. Mon ami n'est que blessé. Obtenez que le docteur se taise. Moi, je réponds de tout du côté de la justice. Fin de la section 13.